Mais qu'elle veut, coupable de quoi? De ne pas l'avoir encore accompli, tout simplement. Mais il n'y a eu aucune faute. Oui. C'est chef de l'autorité. Eh bien, mais que la Mishnah veut indiquer qu'il faut évacuer complètement l'harmonique de sens qui serait culpabilité, alors elle ne dit pas Hayav, elle dit Hav. Pour indiquer Hav, et non pas Hayav. Pour indiquer que c'est l'accent de Chova auquel il faut se référer, et non pas du tout l'accent de culpabilité, de Chiyuv. Est-ce que c'est clair, en tout cas un peu pour les Hébraïsans, okay? Oui, première catégorie. En hébreu, nous disons « soumis à obligation » avec le même mot qui signifie « être coupable ». Être coupable de quoi? Aucune faute. La réponse est très simple. Être coupable de n'avoir pas encore accompli cette obligation. C'est une culpabilité innocente qui est très proche de la notion de responsabilité, mais pour qu'elle soit vécue en tant que tikkun, il faut évacuer la dimension de culpabilité. Là, ici, un terme de réflexion important, de distinguer entre la culpabilité et la responsabilité. Être responsable de quelque chose, ça ne veut pas dire être coupable. S'il y a parmi vous des psychologues, vous comprenez l'importance de ce problème. D'autant plus qu'il touche le tempérament juif de façon très profonde, puisque la conscience juive est très très sensible à la notion d'obligation et de loi, et il y a énormément d'erreurs de la conscience qui basculent dans ce problème de la responsabilité à la culpabilité. Et peut-être que c'est là le commencement d'explication de tant de névroses juives qui ne se trouvaient que ça, okay? une erreur de la conscience. Occupé à une conduite de responsabilité, on est tombé dans une névrose de culpabilité, alors qu'il n'y avait pas de faute. Est-ce que c'est clair? Alors oui, déjà nous sommes au bord de cette découverte du souci du tikkun. Il y a quelque chose à réparer. Mais quoi? Quelque chose de très fondamental. Le fait que je ne suis que dans la mesure où je reçois l'être qui me fait être. Mais cet être que je reçois et qui me fait être, je ne l'ai pas encore mérité. Alors c'est pourquoi, dès le début, il est en état de Shvirat HaKelim. En état de chaos et d'obscurité. Et de diaspora intérieure, et d'éclatement de l'unité, enfin le désordre de la conscience. Voilà, c'est clair jusque-là? Bon. Alors je vais vous faire la même analyse très brièvement pour le terme de Zakai. De la même manière, lorsque on veut dire de quelqu'un qu'il est innocent, on dit qu'il est zakai, et lorsqu'on veut dire de quelqu'un qu'il a acquis un mérite, on dit qu'il est zakai, avec le même mot. Être zakai, c'est donc être innocent de cette culpabilité innocente, mais a posteriori de l'acquis du mérite. Alors faites bien attention à ça. L'expérience montre que si on n'a pas élucidé ce vocabulaire, la relation à la loi morale risque d'être une relation de conscience malheureuse. Parce qu'on confond ces deux catégories, ces deux ensembles de catégories. Et on croit qu'avoir une obligation, c'est être coupable, et que finalement, avoir accompli l'obligation, c'est être acquitté d'une dette. Ce vocabulaire-là encombre les écoles juives, et c'est la source d'énormément de névroses. Okay? Vous comprenez cette confusion entre Hayav, Hayav, Zakai, Zakai. Okay? Une espèce de relation à la loi qui crée cette erreur, ce mythe du péché originel. À l'origine, qu'est-ce qu'il y a comme origine du désordre? Pas la faute, la Shvirat HaKelim. Et quand il y a faute, ça complique la Shvirat HaKelim, mais pas plus. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, alors nous allons partir donc de cette notion. C'est que il y a, dès le début, un tikkun de cette manière d'être qui consiste à être dans la mesure où je reçois l'aide qui me fait être. Vous comprenez pourquoi je répète ces formules. Et donc, le tikkun que j'ai à faire, c'est le tikkun de ma condition de créature. Être en condition de créature, c'est être mal, au niveau du mal. Mais dans quel sens? Dans ce sens de culpabilité innocente, avoir reçu avant d'avoir mérité. Avoir reçu avant d'avoir mérité. Il y a là une contradiction qu'il faut faire éclater, dépasser. Mais je dirais que là, l'expérience nous le montre, l'expérience de confrontation des cultures, que là, il y a place pour une différence de sensibilité entre l'hébreu et les non-hébreux, entre le juif et le non-juif. Vous pouvez rencontrer un abord de ce problème radicalement inversé dans d'autres traditions culturelles. Il y a une différence de sensibilité de l'origine. Et c'est ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'analyse de la notion de la grâce. C'est-à-dire que l'être nous est d'abord donné a priori de toute histoire, de tout effort de mérite en grâce. Eh bien, la réaction de la sensibilité hébraïque, c'est que il faut dépasser cela. Tant que je suis dans cet état de grâce, je suis encore en état de culpabilité. Il faut, est-ce que c'est clair? Je n'ai pas encore mérité ce qui m'a été donné en grâce. Alors, il ne faut pas oublier la grâce du don de grâce. Mais tant que je suis dans l'état de grâce, je suis dans l'état de chova. J'ai une dette à ce tikkun de la transformation de l'être qui reçoit l'être en être qui donne l'être. Voilà, vous voyez comment c'est un peu raccordé aux analyses de la semaine. Okay. Et là, nous aurions une impossibilité de dialogue avec la sensibilité chrétienne, qui a complètement inversé les données du problème. Okay. Et pour qui, je ne sais plus parler, parce que j'emploie même des mots français, mais avec un sens hébreu, je ne saurais plus parler pour dire ce que je veux dire. Et pour qui, c'est cela le bien, c'est l'état de grâce. Alors que pour la sensibilité juive, c'est un niveau spirituel de la première enfance. C'est, nous avons reçu en tant que créature l'être qui nous fait être par grâce. Mais la maturité spirituelle, c'est quand la conscience morale arrive au souci du tikkun, c'est-à-dire mériter ce qui a été donné par grâce. Et c'est là que le juif aborde la majorité spirituelle. Stade que le chrétien n'atteindra jamais, puisqu'il désigne comme summum de la vie spirituelle l'état de grâce. Et d'ailleurs, dans son vocabulaire, les petits-enfants, c'est dit de façon noble par des adultes, mais c'est bien ce qui est visé, l'état de grâce, c'est-à-dire l'état de l'innocence de l'enfant, en deçà du problème moral. Et lorsqu'on nous dit qu'il faut être sauvé, ça veut dire, en conscience chrétienne, il faut être sauvé du problème moral. Vous voyez à quel point nous sommes dans deux pôles de la vie spirituelle radicalement extérieurs l'un à l'autre. C'est pourquoi, encore une fois, la notion de ce trait d'union judéo-chrétienne n'a pas de sens. Bon, je referme la parenthèse. Alors, c'est clair jusque-là. Vous voyez, sur quoi va porter le tikkun? Sur la Shvirat HaKelim. Mais cette entreprise du tikkun, elle n'est pas du tout dans une atmosphère de péché originel. Elle est la prise en charge de l'état du monde à son commencement, et cet état est ontologiquement nécessaire. Il ne peut pas en être autrement, et personne n'en est responsable. Sinon, le projet d'un créateur de créer un monde. Mais ça commence comme ça. Et alors, ce n'est que lorsque le tikkun sera achevé qu'on comprendra que ça valait la peine. Entre-temps, alors on supporte un état de chaos et la tentation de se révolter, tout ça. Tout ça, nous l'avons vu. Chaque chose en son temps. Rappelez la différence entre Nimrod, Abraham. Alors, je vais vous proposer un schéma simple pour le point de départ de l'analyse. Vous vous rappelez pourquoi on nous avait dit que le vide était où sera logé, l'être du monde part d'un point. Un point qui apparaît comme le centre d'une sphère. Alors, essayez de comprendre de cette manière. Pourquoi le point au centre désigne la manière d'être en tant que recevoir l'être, alors que la périphérie de la sphère désigne la manière d'être en tant que donnant l'être. Mais il me suffit de vous mettre un jeu de flèches et j'espère que vous allez comprendre. Oui, si l'être dont je parle est un être sous forme de sphère, eh bien tous les points de cette sphère et pas seulement de la périphérie convergent vers le centre. Et le centre est le point qui reçoit l'être de partout. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire les points qui sont à la périphérie sont dans la situation de l'être donnant l'être. Ils se dirigent vers le centre. Mais le centre, c'est le keli de Kabbalah. Le centre, c'est le point de réception de l'être qui vient de voir. Alors, voilà pourquoi cette notion, c'est clair? Cette notion de keli, elle est au centre. Et voilà pourquoi chaque créature est le centre du monde. Les mots ayant leur sens simple. Et voilà pourquoi le tikkun doit se faire au centre. Il se fait dans cette manière d'être, qui se définit de nouveau ainsi, être en tant que je reçois l'être, et qui est le point central. C'est le tikkun du point central. Alors, vous retrouverez ça dans les textes de cette manière. C'est le tikkun de la Nekuda Haemtsai, le point qui se trouve au milieu. C'est le point qui se trouve au milieu qui doit être restauré. C'est lui qui désigne cette manière d'être en tant que recevoir l'être qui est la racine du mal, la racine de tout mal. S'il y a une faute, ça vient de là. Mais s'il y a une faute, et je m'explique, si nous faisons l'analyse de tout ce qui est défini par quelque éthique que ce soit, et en particulier la loi de Moïse, si je fais l'analyse de toute conduite qui est définie comme conduite de mal, eh bien je m'aperçois qu'au fond, au fond de toute analyse de toute conduite de ce type dite mal, il y a une motivation qui est toujours la même et qui est une tendance à recevoir l'être sans l'avoir mérité. Est-ce que c'est clair? C'est le minimum commun de toute faute. Vous voyez, où est le problème? Et vous comprenez que l'exposé théologique de la compréhension de l'histoire en tant qu'histoire du tikkun par la tradition juive demande une option préalable de sensibilité morale très précise, celle de l'hébreu. Elle n'est pas forcément évidente pour d'autres manières d'être homme. C'est qu'on a le droit de posséder que si on a mérité. Alors oui, l'inversion qui se fera en vocabulaire de théologie chrétienne, c'est tout le contraire. Je cherche un mot qui serait neutre, c'est-à-dire que la vertu, c'est précisément cet état de grâce. Alors que pour la sensibilité juive, c'est le commencement de la vertu, c'est le stade Abraham, mais il faut passer par le stade Isaac. Et cette grâce que nous avons reçue, il faut la mettre en jeu dans l'effort du mérite. Alors seulement le projet du Créateur est accompli. Parce que si je me borne au premier stade, être celui qui reçoit l'être, eh bien sûr, le projet du Créateur est amorcé. Qu'a-t-il voulu créer? Un être qui reçoit l'être que lui veut donner. Mais son projet en tant que Créateur, c'est que cet être qu'il veut donner soit vraiment acquis par l'autre, la créature. Tant qu'il n'est que donné par grâce, il n'est pas encore acquis. Et donc le projet du Créateur n'est pas encore satisfait. Et c'est pourquoi après Abraham, il faut Isaac. Vous suivez ça? C'est-à-dire, un fils d'Isaac ne doit pas oublier qu'il est fils d'Abraham. Mais un fils d'Abraham doit monter à ce stade de fils d'Isaac. Et après cette ascension, on arrive au troisième terme où la contradiction est évacuée, comme nous verrons tout à l'heure. Il y a d'abord à effectuer cette vertu de « je sais que je reçois l'être par grâce ». Fils d'Abraham, qui était Abraham, comme le dit le Midrash, nous l'avons étudié encore cette semaine, celui qui a reconnu qu'il avait un créateur. Et qu'est-ce que ça veut dire créateur? Celui qui donne. Qu'est-ce que ça veut dire serviteur de Dieu pour Abraham? Je reçois. C'est en cela que je suis serviteur de Dieu. Je connais Dieu comme étant celui qui donne. Qu'est-ce que ça veut dire le service? Accepter de recevoir. Ça, c'est le service d'Abraham au Dieu d'Abraham. Mais apparaît le deuxième stade. Lorsque je comprends que Dieu a voulu me donner l'être, me donner vraiment, pas me le donner en grâce seulement. Ça commence comme ça, mais le donner vraiment, que je devienne moi. C'est cela qu'il a voulu, sinon il ne m'aurait pas créé. Alors il faut donc que j'acquière le mérite de ce que j'ai reçu en grâce. C'est le deuxième stade. Est-ce que c'est clair ça? Vous voyez quelle était l'épreuve d'Isaac. Cet être que tu as reçu en tant que fils d'Abraham, c'est quoi d'ailleurs l'épreuve commune à Abraham et à Isaac. Cet être que tu as reçu en tant que fils d'Abraham, mérite-le. Oui, au premier stade, encore une fois, éloqué à Abraham, eh bien la vertu, c'est d'expérimenter ça. C'est par grâce que j'ai reçu l'être. Bon. Et puis, arrive le deuxième stade. Mais cet être que j'ai reçu par grâce, il faut que j'en fasse le tikkun, c'est-à-dire le kinyan. Il faut que je l'acquière. Ceux qui savent un peu l'hébreu, vous avez entendu le lien. Tikkun et kinyan, c'est le même sémantique. Le tikkun mène au kinyan. Et il faut que je l'acquière. Et je dirai, et je reviendrai encore tout à l'heure, pas seulement par la grâce de Dieu, mais par mon propre mérite. Et ici, l'interpellation est très sérieuse. D'où je vais sortir ce mérite qui va être le prix à payer pour l'être que j'ai reçu. Il ne s'agit pas seulement d'être mieux, d'un mieux-être, d'être mieux, comment dirait-on, plus ou moins. Il s'agit de plus. C'est plus fondamental que ça. Il s'agit d'être. Et il n'y a dans aucune de mes vertus, au niveau de l'avoir des vertus, une monnaie suffisante pour payer l'être. Je peux payer ce que j'acquérerai une fois existant, un mieux-être. Mais comment payer cet être qui reçoit? Avec quelle monnaie prise en moi? Il n'y en a pas. Sauf moi-même. Et c'est l'épreuve du sacrifice. C'est-à-dire le seul prix à payer dans cette interpellation, l'être que je t'ai donné mérite-le, c'est l'être lui-même. Oui, le deuxième stade. Je dirais donc, d'une certaine manière, que la conscience chrétienne reste au stade des enfants d'Abraham. Et périssé à l'idée qu'il faut passer au deuxième stade, celui des enfants d'Isaac. Et elle réserve ça aux Juifs. Permet qu'elle soit remarquée, ça. Hein. Et c'est grâce à ce sacrifice des Juifs que le monde est sauvé. Vous voyez ce qui se passe. Hein. Bon, et alors on vous raconte un mythe où ça se passe jusqu'au bout, ce sacrifice. Hein. Ceux d'entre vous, je vous ai dit souvent, il s'agit d'un mythe, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'un mythe du Tikkun, de l'histoire faite par Israël. Ceux qui ont étudié ces correspondances, vous savez que ça va jusque dans les détails les plus précis, et qu'on attribue le même âge que celui du sacrifice. Vous savez cela. C'est pas ça. Enfin, que la crucifixion aurait lieu exactement à l'âge qu'avait Isaac au moment du sacrifice. Vous voyez, la première fois c'est l'histoire, la deuxième fois c'est le mythe. Vous savez comment fonctionnent les mythes? Est-ce que c'est clair? Et donc la conscience chrétienne a dit très clairement ce qu'elle voulait dire. Seulement on ne sait pas lire. On ne sait pas écouter. Et c'est ça, donc, l'histoire du Tikkun. Est-ce que j'éclaire jusque-là? Le Tikkun porte sur le Keli. Sur moi en tant que Keli. Le Tikkun porte sur moi en tant que créature. Sur mon côté d'être qui naît qu'en tant qu'il reçoit l'être qui le fait être. C'est le Keli. Et je le dirai maintenant en hébreu. Ça veut dire Chochmat HaKabbalah. Dans ce sens. Oui, je vais poser une question, mais rapidement.
Matava?
Non, Mida.
Mida?
Oui. Pourquoi vous avez dit Matava? Non, Matara c'est finalité. Matara c'est objectif. Non, Mida.
Qu'est-ce? Les Juifs dans le désert, tant qu'ils n'ont pas reçu la révélation, ils n'avaient pas encore.
Oui. J'en avais dit deux choses à la fois. Alors, premièrement, il n'y a pas de vue dans le désert, il y a des Hébreux. Et corrigez toujours ça. Alors, quelle est votre question?
Je pense que jusqu'au moment où, juste pendant toute la traversée du désert, ils étaient en train de faire le Tikkun, qui n'a été réalisé que lorsqu'ils ont reçu la
Torah. Ça se passe comme ça. Mais écoutez, vous savez, la question que vous posez va me prendre trop de temps.
On a dit pas de question.
Mais, oui. Je vous réponds simplement par une phrase que vous avez posé la question. Non, je crois que c'est une question de terme, comme ça. Vous êtes israélien, oui. Alors c'est le français qui est difficile, mais je comprends pas cette erreur entre Mida et Matara. Mais enfin, je vais vous raconter une histoire d'un commentaire du Baal Shem Tov. C'est une de ces calomnies contre cette génération du désert qui voulait de la viande, alors qu'ils avaient de la manne. Bien. Alors, vous rappelez de cela. Le Baal Shem Tov l'explique comme ça. La manne prenait le goût de toute nourriture qu'on avait expérimentée dans le passé. C'est-à-dire, la mémoire pouvait projeter tel ou tel goût dans la nourriture de la manne. Vous connaissez ça, bien. Et alors, quand les lois de la cache-croûte ont été données, il y avait une mitzvah que les Hébreux dans le désert ne pouvaient pas accomplir, c'était manger cachère, puisqu'ils ne pouvaient se rappeler que d'une nourriture pas cachère, de l'Égypte. Alors c'est comme ça qu'ils ont demandé Zacharnu et Adaga, et à Batichim et à Kishuim, Asher Nochal ve Mitzrayim. Nous nous souvenons du poisson que nous mangeons en Égypte dont nous avions. On ne comprend pas. Nous pouvons nous souvenir que du poisson. Et comment nous allons faire cette mitzvah de manger cachère de la viande? Alors donne-nous de la viande pour qu'on puisse connaître le goût de la viande cachère. Et après on se rappellera, une fois on mangera, c'est tout petit. Vous savez, c'est important ça. Il n'y a pas de faute la première fois. Pourquoi ils ont été, et c'est la définition d'ailleurs du châtiment en toute faute, pourquoi ils ont été punis? Pas parce qu'ils ont demandé de la viande, mais parce qu'ils ont demandé beaucoup. Parce qu'ils ont exagéré. Et le texte dit jusqu'à ce que c'est sorti de leur bouche. Il y en avait trop. Ils ont eu trop. J'ai compris. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, dans notre problème. La loi ne punit jamais les premiers comportements. Elle punit la répétition des comportements. Parce que ces comportements de réception d'être nous sont imposés. Or, ils sont mal en eux-mêmes, tant qu'on ne les a pas mérités. Oui, mais il faut apprendre à recevoir. Et ce n'est que lorsque on reçoit pour recevoir, lorsque on reste à ce niveau de la jouissance du recevoir, que la culpabilité commence, que les problèmes de culpabilité commencent. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Vous connaissez cette phrase qu'on dit dans la liturgie des Yom Kippour ? Ma'avir, Rishon, Rishon. La première fois, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est encore la première fois. À la troisième fois, ça compte. Vous savez ça ? Alors, qu'est-ce qui est puni ? C'est pas tellement le comportement d'avoir à recevoir l'être, mais d'avoir à recevoir l'être et à recommencer rien que pour recevoir, et pas en vue de donner. C'est là que la faute devient faute. Voilà, j'espère que j'ai déculpabilisé beaucoup de choses. Et en particulier, un midrash extraordinaire, quand Dieu interpelle le premier homme, il dit « T'as mangé ?» Alors, il dit « Oui, j'ai mangé et je mangerai. » Et la Kabbalah, l'enseignement du Rav Ashlag ici est très profond. Il dit « Oui, j'ai mangé. J'ai mangé pour savoir que c'était recevoir. Mais je mangerai. » Avec le tikkun, c'est-à-dire, je mangerai pour savoir comment donner ce que j'ai reçu. Achalti va ochal. Oui, restez-y, s'il vous plaît. Alors, on va avancer, mais très rapidement.
On a fait un contrat.
On a fait un contrat vendredi, on arrivera après.
Perdez pas de temps, perdez pas de temps.
Oui,
bon, vous me posez la question dans une autre éternité. Je reviens au problème. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, cette Nekuda Emsarit qui désigne en tout être le côté qui reçoit l'être. C'est elle qui est mise en jeu dans l'histoire d'un monde parce qu'elle doit faire son titre. Là, je vais dire les choses enfin le plus en surface possible, vous approfondirez par vous-même. D'une certaine manière, c'est un caprice d'avoir créé le monde. Il faut mettre en question dans une histoire d'un monde ce côté de l'être qui consiste à être en tant qu'il reçoit l'être. Par définition, c'est ce tikkun-là qu'il faut faire. Et vous voyez que tout tikkun de l'homme, la créature, dans son comportement d'acquisition de la vertu, a un prolongement ontologique, métaphysique, total. Et c'est pas seulement mon propre tikkun que je fais en tant que créature. Je suis occupé à faire le tikkun de l'univers, des olamot, des mondes. Et je dis pas plus, ceux qui ont compris ont compris. C'est-à-dire la Nekuda Haemtsarit est mise en jeu dans une histoire, parce qu'elle est cette manière d'être qui consiste à être en tant que recevoir. Alors au niveau de la créature, ça s'appelle le Yetzer Hara. C'est-à-dire nous sommes créés avec une capacité de Yetzer Hara, parce que c'est ça être créé. Être créé avec une capacité de recevoir l'être, mais c'est ça qu'a voulu le créateur. Vous voyez dans quelles conditions tragiques, apparemment dramatiques, pas tragiques, enfin disons tragiques, nous sommes situés. Nous sommes condamnés au mal, mais un mal que nous n'avons pas voulu. C'est le Créateur qui a voulu que nous soyons créatures. De quel mal je parle ? Être créature. Et non pas faire des fautes. Et ça, toute la vie, c'est, dehors la masée, c'est être occupé à faire le tikkun de cela. Bon, il n'y a qu'une solution possible. Et c'est là que nous allons aborder le tableau de l'enseignement du Rav Ashlag.
Arrêtez de fumer, monsieur,
s'il vous plaît. Si, premièrement, et bien ouvrez, c'est quelque chose. Voilà, premièrement, je suis donné en tant que créature qui reçoit l'être à un Yetzer Hara. La tendance à recevoir l'être. Pourquoi il nous est appelé la tendance au mal ? Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que si le tikkun du Yetzer Hara n'est pas fait, si le tikkun, pardon, du keni qui reçoit n'est pas fait, il est le yetzer hara. Et puis, tant que je n'existe que tant que j'ai yetzer hara. Vous vous rappelez tous ces commentaires qui nous disent que quelqu'un qui n'a plus de yetzer hara est comme s'il était mort. Vous vous rappelez de ça ? On l'enseigne à propos d'Isaac, d'ailleurs. Et je vais raconter l'histoire du Midrash qui se situe, c'est un Gemara, mais qui se situe au temps de Ezra. On dit que Ezra fait une prière en demandant à Dieu que le Yetzer de l'idolâtrie disparaisse. Et puis Dieu accepte. Qu'est-ce qui est indiqué ici? C'est le fait que nous sommes obligés de découvrir ça de façon massive. C'est parfois tellement massif qu'on ne le découvre plus. Pendant tout le temps où il y avait les prophètes, il y avait aussi l'idolâtrie. Et le temps de la prophétie cesse, le temps de l'idolâtrie commence le temps du Talmud. Tout le temps, dès le temps de la Mishnah, il n'y a plus d'idolâtrie. Et alors, qui était plus grand? Les Hébreux du temps des prophètes ou les Juifs du temps de la Mishnah? Vous remarquez ça? Dès qu'on passe du temps des prophètes au temps de la Mishnah, quelque chose disparaît, l'idolâtrie. Alors la Gemara explique ça comme ça. Le temps du retour était arrivé. Alors Ezra fait une prière. Il dit, on va revenir. On risque d'être de nouveau idolâtre. Alors, tu nous fais revenir, mais au moins enlève-nous cette possibilité d'être idolâtre. C'est-à-dire, enlève-nous le Yetzer Hara de l'idolâtre. Et c'est arrivé. Bon, c'est exprimé à la manière du Midrash, mais je vous cite l'histoire. Pendant tout le temps des prophètes, il y avait Avodah Zarah, idolâtrie. Le temps de la Mishnah arrive, il n'y a plus d'idolâtrie. Alors Ezra dit, rends-le. On a quand même gagné quelque chose, c'est que de la Gemara, c'est Yetzer Hara de la débauche. Elle était comme un lion qui avait les yeux ouverts, il nous a été rendu comme un lion qui a les yeux crevés. C'est-à-dire la science de la débauche a dit ça. Enfin, on peut quand même faire une comparaison, que pouvait être la rive gauche à Pompéi et la rive gauche à Paris. La chokma de ça a disparu. La tendance est restée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on a gagné quand même quelque chose. Alors, c'était pour illustrer ce que je veux dire. C'est que l'être est attaché, l'être de créature est attaché au Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui me fait être. Si je n'avais pas de Yetzer Hara, eh bien, je n'aurais qu'une tendance, c'est remonter de là d'où je viens. C'est le Yetzer Hara qui m'attache en bas et me fait être l'être de créature. Vous voyez, vous voyez qu'il n'y a pas de culpabilité accomplie. Il n'y a de culpabilité accomplie que si je l'ai accomplie, que si je reçois pour recevoir, que si je fais la faute, alors il y a une faute. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon, ce que j'essaie, c'est un peu d'évacuer la mythologie du péché originel. Hein? Je dirais d'une telle manière, d'une autre manière. C'est le péché de l'origine de tout péché si je le fais, mais si je ne le fais pas, je ne le fais pas. Et alors, ce péché-là, à recevoir, c'est permis aux enfants. C'est parce qu'il faut apprendre à recevoir. Et c'est pourquoi ce n'est qu'à un certain âge qu'on est bar mitzvah, c'est-à-dire soumis à obligation. On n'est pas bar mitzvah dès la naissance. On est juif dès la naissance, même avant la circoncision, ne vous trompez pas. On est juif quand on est né de sa mère juive. Et la circoncision, c'est l'alliance d'Abraham, c'est une des mitzvotes, elle est importante, mais ce n'est pas ça qui rend juif. C'est une erreur encore des chrétiens. Et mais on n'est pas soumis à l'obligation des mitzvot à la naissance. Il faut attendre la bar mitzvah. Alors, avant d'expliquer la bar mitzvah, il y a tout ce stade d'apprentissage à la moralité, mais qui commence par une première étape qui est nécessaire. Et Dieu m'a créé en vue que je reçoive pour donner. Mais cette première étape, en vue que je reçoive, il faut que j'apprenne à recevoir. Mais si occupé à recevoir, je fais le mal, alors impasse. Alors on me donne tout un temps d'apprentissage jusqu'à la bar mitzvah où recevoir pour recevoir n'est pas un mal. C'est permis aux enfants. Et peut-être, encore une fois, cet état-là de suspension de la loi que la conscience chrétienne recherche, le retour à l'enfant. Et le moment où j'ai obligation de commencer le tikkun, c'est-à-dire le tikkun de cette capacité de recevoir, et qui est la bar mitzvah, apparaît seulement le Yetzer Hara. Vous lisez ça dans la Gemara, et c'est pas pour rien, que jusqu'à la bar mitzvah, je suis censé n'avoir qu'un Yetzer Hara. Mais c'est permis. Parce que je suis en apprentissage de recevoir, et c'est au moment de la bar mitzvah qu'apparaît le Yetzer Hara. Bon, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Eh bien, c'est la tendance à me faire, à l'imitation du Créateur, celui qui donne. Et c'est dans cette contradiction que je me suis plongé en tant que créature dans le problème moral. Être vraiment, être celui qui donne. Mais pour être, moi, créature, il faut que je sois celui qui reçoit. Et c'est cette contradiction que le Tikkun doit évacuer. Et j'explique très, très simplement quelle est la règle de la Bar Mitzvah ou de la Bat Mitzvah chez les filles pour la Shkronaur. Quel est le jour où un enfant est Bar Mitzvah? C'est le jour où il est cyber. C'est-à-dire le jour où il est capable à son tour de donner la vie. Alors il est soumis à obligation. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et c'est pourquoi la Bat Mitzvah se fait un an avant pour les filles, parce que c'est un an avant que les filles sont cyber. Il n'y a pas de mystère, non? Non, pas de problème. Ce n'est pas conventionnel, caprice. Et la règle fondamentale, c'est lorsque le judaïsme était vécu à l'échelle familiale, maintenant il n'est plus vécu qu'à l'échelle communautaire, disons, c'est pas 13 ans et un jour, bien que ce soit la loi, c'est la halakha, c'est le jour de la puberté, même si ça se fait 11 ans et 2 ans. Et c'est la mère ou le père qui savent que c'est ce jour-là, on est dans le milieu. C'est-à-dire quand, du point de vue de la Torah, le jour où on est à son tour capable de donner la vie, alors on est soumis à l'obligation. Remarquez, je vous une petite parenthèse quand même, la différence entre la notion de majorité dans une tradition, c'est resté dans la tradition juive, mais c'était dans toutes les traditions d'initiation, des sociétés dites primitives, mais qui étaient traditionnelles, c'est le jour où on peut donner la vie. Alors que dans les sociétés modernes, on devient majeur le jour où on peut l'apprendre à quelqu'un d'autre, le service militaire. Remarquez. Bon, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire le jour où on peut défendre la patrie. Bon, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire la société n'accorde la majorité qu'au moment où on peut être assassin. Alors que la tradition donne la majorité au moment où on peut être père ou mère. Mais là, la différence. Bien. Et donc, voilà cette équation d'impossibilité qu'il faut dépasser. Alors, je vous avais indiqué très rapidement pour vous donner le temps d'y réfléchir, je crois que c'était au troisième cours dans la semaine, vont se mettre en place quatre possibilités, et vous verrez que ça, ce schéma que nous allons voir maintenant, nous explique à la fois les âges à l'échelle individuelle et l'histoire des civilisations. Alors, je commence par en bas, l'état de chaos le plus inférieur, là où le yetzer hara est vraiment yetzer hara, c'est l'attitude de recevoir pour recevoir. Et oui, quelle est la malignité, la ruse de la conscience? Mais c'est ça que le Créateur a voulu, que je reçoive. Alors je m'installe dans la jouissance du recevoir pour recevoir. C'est le premier stade.
En
hébreu, c'est Rasson, Lekabel, Almenas, Lekabel. Vous voyez? C'est volonté de recevoir, en vue de recevoir. Ça, c'est rare. Vous voyez pourquoi? Il faut le stade de l'enfance. Parce qu'il faut que j'apprenne à recevoir. Et que je sois situé dans un temps d'apprentissage, de culpabilité innocente. Et vous allez me dire quoi? Jusqu'à l'âge de 13 ans, la puberté, la bar mitzvah, on laisse passer à l'enfant tous les caprices? Non, bien sûr que non. Très rapidement, l'enfant devient bar chinuch, donné à l'apprentissage de la vertu. Bar chinuch, ça veut dire qu'il a déjà l'âge de l'étude. De l'éducation. Et déjà, il va apprendre ce que c'est envie de donner. Mais l'effectuation de la conduite de recevoir est déculpabilisée. Et peut-être, j'ajouterai ici une remarque pour les pédagogues, au fond, c'est très important ce premier âge de l'enfant à ce niveau-là. Il faut que l'enfant apprenne à recevoir. Parce que toute sa vie ne pourra recevoir que d'après la capacité de réception de son véhicule de réception. Alors il faut le lui faire le plus grand possible. Et il ne faut jamais brimer les enfants quand ils disent « je veux ». Parce qu'ils veulent préparer des capacités de recevoir le plus grand possible pour être au plus grand niveau possible serviteur du Créateur qui lui veut donner. Vous savez, ces fermetures par anorexie, refus de manger. C'est l'illustration du premier blasphème. Et c'est-à-dire, il faut faciliter aux enfants ce vouloir-vouloir. Le vouloir-vouloir, c'est d'abord vouloir recevoir. Et si c'est brimé, je ne sais pas comment dire un psychologue, si c'est brimé, il y a blocage, on ferme, et puis toute sa vie, on ne veut pas recevoir l'être du Créateur, on est en situation de refus, parce que c'est papa ou maman qui sont responsables dans l'histoire, et ils ont bloqué l'envie de vouloir vouloir. On pourrait dire d'une autre manière, mais rassurez-vous, tout ça, ça s'arrange. Il y a tikkun pour tout ça. Mais c'est simplement pour vous indiquer l'importance du problème au premier stade. Recevoir, envie de recevoir, c'est être rachat. Hein? Et vous voyez pourquoi tous ces midrashim qui nous en parlent nous disent qu'il fallait des rachaim dans le monde. C'est-à-dire pour qu'ils nous apprennent à avoir envie de recevoir. Il ne faut pas faire comme eux, mais ils sont indispensables au monde. Hein? La capacité de construire des frigidaires, c'est finalement grâce au rachaim. Mais c'est grâce au rachaim qu'on peut boire frais le Shabbat après-midi parce qu'il y a des frigidaires. Et pourquoi cette civilisation de la production-consommation qui est entrée dans le cycle infernal frigidaire ou n'importe quoi, un téléviseur, chemin de fer. Ben, c'est une civilisation de Chari, mais grâce à eux, on a envie de recevoir. Bon, pourquoi s'arrêter à ce moment-là ? Ah oui, c'est le stade de l'enfance, et c'est aussi le stade dans l'histoire des civilisations matérielles, qui n'ont qu'un objectif, la jouissance. Recevoir pour recevoir. Et alors, dans chaque étape, il y a tous les niveaux d'âge, il y a tous les niveaux de sophistication, il y a tous les niveaux de complexité. Hein? Vous voyez comment ça se situe. Apparaît là, dans l'histoire du Tikkun, une révolution à un certain moment. Et c'est là qu'apparaît, encore une fois, ce principe dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on ne peut comprendre le judaïsme qu'à travers la sensibilité juive. Préalablement à une théologie juive, il y a une anthropologie juive, une manière de prendre. Et je ne sais pas si on peut, par les mots et les idées, s'expliquer avec quelqu'un qui fait partie d'une autre sensibilité. Il faut conversion de l'être. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? J'ai parlé de cela tout à l'heure, en disant que jamais un dialogue théologique entre l'état de grâce et l'état de mérite ne pourra être posé entre juifs et chrétiens. Pourquoi ? Parce que on part d'une équation de sensibilité morale radicalement différente. Et arrive donc une révolution. C'est ce souci que recevoir, c'est mal. Et que s'arrêter à ce stade de recevoir pour recevoir, c'est mal. Et la jouissance renonce à elle-même, un peu ça dans l'expérience de la désespérance d'Ésaü, dans le récit de l'histoire d'Aïssar, c'est-à-dire là, du trop plein de jouissance arrive le dégoût, le goût de vivre, l'ennui et la désespérance. Vous comprenez ce que je veux dire là ? Et puis, quelque chose va se culbuter. On découvre qu'il faut donner. Alors là, apparaît un stade très ambigu, où la formule est Ratson, Léhashpia, Almenat, Lekavel. Que je ne mérite de recevoir que si je donne. Alors vous avez ici l'attitude des religions païennes. C'est vouloir donner en vue de recevoir. Il y a déjà progrès, puisqu'on donne, mais c'est en vue de recevoir. Alors c'est le deuxième stade. C'est le deuxième, au niveau des âges de l'individu, c'est la crise religieuse. Je serai vertueux pour avoir le paradis. J'ai découvert que recevoir et que ça, c'est pas joli, disons, il faut que je donne. Donne quoi ? Ma vertu. En vue de quoi ? En vue de recevoir. Alors ce stade-là est très ambigu. Pourquoi ? Parce que le point de chute, c'est encore en vue de recevoir. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Et au stade de l'histoire des civilisations, c'est les religions païennes. Dans la formule, je l'avais apprise en latin quand j'étais au lycée, la formule de la prière païenne, do ut da. Des. Oui, d'accord. En vous disant da, vous entendez ça en allemand ou en russe. Et je me disais, vatita. Et alors, là, ça veut dire, je donne en vue que tu donnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vertu. Parce que je donne, c'est de la vertu. Mais en vue que tu donnes, c'est pas encore, le tikkun n'est pas encore achevé. Alors oui, au niveau des âges de l'individu, c'est, disons, grosso modo, la crise religieuse de l'adolescence. Je parlerai de la crise mystique après. La crise religieuse, ce sentiment qu'il faut que je donne ma vertu pour mériter de recevoir. Au niveau de l'histoire des civilisations, c'est le stade des théologies païennes. Il y a effectuation d'un rituel de vertu, mais en vue d'avoir le paradis. Je n'ai pas dit que ce n'est pas cachère, Mais c'est à ce stade-là. Après tout, c'est ça que Dieu veut, me donner le paradis. Bon, on a bien avancé, on a compris. Et alors, arrive une deuxième révolution. Ce que je vous appellerai, c'est pas la crise mystique. Au-delà de la crise religieuse, la crise mystique de l'adolescence. Et puis, ce sont les stades des spiritualités désincarnées dans l'histoire des religions, dans l'histoire des sociétés. C'est recevoir, le point de chute est encore recevoir, mais ça c'est encore mal. Alors, on va avoir une aventure utopique absolue. L'art pour l'art, au niveau de la morale. Je donne pour donner, je ne reçois pas. J'ai un peu parlé de ça dans les cours précédents, mais je viens sur ce point-là. C'est le moment le plus vulnérable de l'histoire de la conscience et de l'histoire des civilisations. C'est là qu'apparaissent les religions où les religions mystiques où l'homme de foi se présente comme s'il était Dieu lui-même. Parce que qui est celui qui donne et que cela ? C'est le Créateur. Alors la créature qui découvre la vertu à ce stade-là, la vertu c'est donner, donner pour donner, ben, il se prend pour le Créateur. Okay ? Est-ce que c'est clair ce jeu ? C'est pourquoi je vous dis cette crise mystique, c'est un passage indispensable, parce que pour apprendre à donner, il faut apprendre à donner. Et de qui on va apprendre à donner ? De ceux qui donnent et que ça. Nous savons qu'ils sont fous. Mais c'est d'eux qu'il faut apprendre ça. C'est une autre manière d'être à charge. Corollaire à celle qui était, recevoir pour recevoir. Laquelle des deux est la plus grave ? Dieu seul le sait. Et vous voyez, le troisième stade, c'est Ratson et Hpia, Ramena et Hpia. Comment se produit cette évolution de l'homme. Et alors, finalement, on arrive au quatrième niveau. Là, vous devinez que c'est là que la Torah va se situer, le judaïsme va se situer, juste à ce qu'on comprenne, et c'est ça la définition de la sagesse, qu'il faut satisfaire aux deux obligations. Il faut être serviteur du Créateur. Et maintenant, je vais vous le dire en hébreu. Chaque matin, dis-je, pas à vous, on se lève prêt à ravoda taboré. Vous connaissez cette expression. Et que ça veut dire servir le Créateur ? Ça veut dire recevoir l'être. En tant que je reçois, je sers le Créateur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Créateur ? Celui qui veut donner. Qu'est-ce que ça veut dire servir le Créateur ? Accepter de recevoir. Ça, c'est Avodat Abodé. Vous tenez bien cette expression. Elle a un sens religieux très précis. Et on nous donne le rituel. Comment recevoir ? C'est le rituel du Shranaour. Comment recevoir ? Sans rester dans ces stades où recevoir c'est mal. Mais je suis condamné à cela d'une certaine manière, à recevoir, puisque Dieu m'a créé. Alors, découvrez un peu quel est le souci, la sensibilité juive de la Torah, de l'homme de la Torah, par rapport à ce problème de la réception d'être. Il faut recevoir. Mais tant que je suis au stade de recevoir, c'est le mal. Un mal sans culpabilité. Et je suis donc à l'état de chaos, etc., etc. Mais finalement, je découvre qu'il y a une seule manière de satisfaire à ces deux obligations, le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov, c'est recevoir en lieu de donner. C'est clair jusque-là ? Bon. Alors, c'est là qu'on aborde la solution du problème. Alors, je vais l'écrire d'abord. C'est Ratzon, Mekavel, Amena. Voilà. Alors, non, c'est plus Avodat Aboré. Avodat Aboré, c'est les Kabel, Yetzer Hara. Je sers le Créateur avec mon Yetzer Hara. Si j'ai retenu le sens exact des mots, Créateur, ça veut dire celui qui donne l'être. C'est l'effectuation de la piété. J'accepte d'exister comme créature. J'accepte d'exister tout court, c'est ça. Comment j'effectue cette piété en recevant ? Avec mon Yetzer Hara. Et vous rappelez ce que dit Rashi sur le Kriyat Shema. Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha. Rashi intervient en citant la Gemara, Vishtei Yetzavecha. Avec tes deux instincts. Vishnei Yetzavecha, ou Vishtei Yetzavecha. Avec tes deux instincts. Yetzertov et Yetzerar. Yetzertov, ça va de soi, que je sers Dieu avec mon altruisme. Yetzerarar, ça va pas de soi. Alors, Chidouche de Rashi, avec aussi le Yetzerar.